Fire et Safa.
Entre Plaine et Doline.
Les voies furtives.
Entre Mobilette et Silex.
Entre Scooter et Petra.
Les voies se glissent.
Double Blafip.
Chèvre et Cochon.
Les voilà qui rebondissent.
Dans la bergerie.
Dans le garage.
Dans la dameule.
Dans le chasse-neige.
Et le tunnel.
Les voix se choquent et s'entrechoquent.
Et toquent.
Grotte profonde.
Crête vantée.
Boulangerie.
Cours d'école.
Des voix sur un plateau.
Une émission.
Tout en Vercors.
Bon appétit.
Bonjour Bernard.
Salut Annette.
Eh ben, pas bien dormi ?
Non, pas bien dormi.
Trop de fêtes ce week-end ?
Bah, la fête, oui, mais le sommeil, un petit peu coupé. Tu vois, des petits bruits qui nous dérangent la nuit.
Des petits bruits qui te dérangent la nuit ?
Oui, des animaux un petit peu, disons, malicieux qui rentrent dans la maison.
Qu'est-ce que tu vas nous inventer là encore ?
Écoute, tu sais bien qu'à l'automne, c'est le moment des graines.
Oui.
Bien. Eh bien, à cette époque-là, tous les animaux prévoient leurs petites graines. D'ailleurs, toi, tu as rentré tes pommes de terre, tes courges, tes oignons.
Les noix.
Les noix, les noisettes, etc. Eh bien, tout ça est entreposé et il y a des animaux qui viennent se servir. Notamment un petit loir. Je ne suis pas raciste, hein, c'est un loir.
Un loir ?
Voilà, un loir.
Un loir qui vient se servir de toutes ses graines.
Voilà. Alors, pour les auditeurs, un loir, c'est très simple. C'est comme un écureuil. C'est gris et ça vit la nuit. Par contre, c'est très malin et je peux te raconter quelque chose, c'est que, en fait, eh bien, j'ai failli l'avoir.
Ah ah ! Vas-y, raconte-nous ton histoire alors, Bernard.
Eh bien, je me suis armé d'un bâton de ski.
Et alors ?
J'ai glissé hors de ma couette.
Et alors ?
Eh bien, et alors, armé de mon bâton de ski, dans ma tenue la plus, j'allais dire, rudimentaire, la frontale sur la tête, je l'ai vu.
Et alors ?
Il m'a regardé, et j'ai rien fait. Voilà, c'est ça. En fait, il faut te dire que ces petites graines, moi aussi j'en mange, et avant l'hiver, elles sont intéressantes pour te faire un peu de graisse, Annette.
Un peu de graisse. Oui, effectivement, comme on disait, les courges, eh ben, c'est la période, les gratins, les choses comme ça, tu veux dire.
Voilà, c'est ça. Donc une très bonne période, mais j'ai aussi pas mal de soucis par rapport à ces graines. Car tu sais que toutes ces graines de la nature, eh bien, j'allais dire, elles continuent la vie. Mais en même temps qu'elles continuent la vie, eh bien, comme toute chose, ça intéresse certaines personnes. Car la vie se négocie à gros prix en ce moment. Donc, on essaye de formaliser cette petite vie en petites graines et on dépose des brevets. Eh oui.
Comment ça ?
Eh bien, des brevets sont déposés autour de chaque graine et elles appartiennent maintenant, non pas à la nature, mais à des firmes qui, sans scrupule, revendent leurs graines aux agriculteurs, aux maraîchers, à tout le monde. Et à partir de ce moment-là, on se fait du business. Donc mon petit loir, il est bien loin avec ces petites noisettes que tu as ramassées. On est bien loin de tout ça.
Quoi ? Tu veux dire qu'il y a que les gros qui peuvent utiliser les graines ?
Non, mais si tu veux une noix, par exemple, eh bien, il y a peut-être, je sais pas, 20-30 variétés de noix. Maintenant, tu vas en avoir qu'une seule. Les noisettes, c'est pareil. Les radis, c'est pareil. On va vivre vers la production. C'est-à-dire qu'on est en train de faire disparaître toute la biodiversité. Et il y a certaines personnes qui se battent contre ça, notamment des associations, comme une association que tu connais peut-être, d'un dieu indien qui s'appelle... Je te pose la question.
Cocopelli,
voilà. Tu te rappelles quand on était au Mexique ?
Bien sûr, je m'en rappelle.
Ah, encore du gaz dans l'atmosphère.
Dieu de la fécondité,
mais cette fécondité-là, ben, c'est vrai que ce sont souvent les femmes qui gardaient les graines eh bien, avec précaution, parce que l'hiver, il ne fallait pas les manger. Hein, il fallait les garder pour pouvoir les replanter, et elles étaient synonymes de vie. Et bien maintenant, donc, ce sont des firmes qui les ont. Heureusement que Cocopelli eh bien, peut nous donner des graines. C'est une association, donc au moindre prix, et surtout de garder la biodiversité des graines anciennes.
Mais donc tu veux dire que par exemple, ces associations comme Cocopelli, qui diffusent cette biodiversité, ils seraient hors la loi ?
C'est ça, tout à fait. Donc, on a pu avoir la chance, grâce à Radio Zinzine, donc des amis à nous, et on a pu avoir la chance d'avoir l'avocat de Cocopelli. Et là, je peux t'assurer qu'on est vraiment dans une histoire assez, assez rocambolesque. D'ailleurs, je vais te la passer tout de suite.
Oui, mais Bernard, on n'attend pas Anne-Sophie qui doit venir là du Vercors?
Oui, ben justement, je crois que quand elle aura écouté ça, j'espère qu'elle va pas arriver avant. Parce que là, ça va être terrible. Hein, parce que si elle écoute ça, je pense qu'elle va déprimer. Elle qui est toujours en train de ramasser les graines de droite et de gauche. Alors, pour remonter le moral, on va se mettre une petite musique. Pendant ce temps-là, on va essayer de contacter nos amis de Radio Zinzine. Et je vous assure que ceux qui n'ont pas le moral, vaut mieux pas écouter ça. En tout cas, je sais que dans le DIY, au niveau des graines, on y fait attention. Donc, gardez bien vos graines en poche. Parce que petits enfants deviendront grands. C'est parti.
Et après, donc, il y aura Anne-Sophie, cueilleuse sur le Vercors.
C'est ça, exactement.
Voilà.
L'amour, eh oui, l'amour, les petites graines, bien sûr. Et comme on était en train de dire sur notre belle émission, Annette.
Et oui, sur l'émission Des voix sur un plateau, sur 107.5 Radio Diwa.
Voilà. Et bien, toutes ces petites graines, tu sais qu'on va les sacrifier pour les producteurs, et ça va être terrible. La biodiversité, c'est terrible. Alors, comme je te disais tout à l'heure, on va écouter tout de suite nos amis de Radio Zinzine et surtout l'avocate de Cocopelli. Alors, ceux qui ne veulent pas entendre quelque chose de désagréable, je leur conseille d'éteindre tout de suite la radio et puis de se dire « Tant pis, je mangerai des patates industrielles. »
Ah, mais non, on peut aussi prendre le temps d'écouter et se dire que c'est intéressant.
Voilà. Donc, quelques minutes quand même, une petite vingtaine de minutes, on a le temps de... Vous allez voir, c'est dur, dur, mais il y a des gens qui se battent. Bravo Cocopelli et bravo à son avocate.
Coup dur pour Cocopelli et pour la biodiversité cultivée. Une émission de Radio Zinzine. Le 13 juillet 2012, la Cour européenne de justice à Luxembourg a publié son arrêt dans le cadre d'un procès opposant l'entreprise semencière Bomou à l'association Cocopelli. Ce procès, et surtout l'arrêt de la Cour européenne, ont une signification considérable pour l'avenir, renforçant le régime de restrictions qui empêche la libre multiplication, réutilisation et circulation de semences, notamment de variétés anciennes ou du domaine public. L'association Cocopelli, basée à Alès dans le Gard, maintient une grande collection de variétés anciennes de plantes cultivées et se bat pour le libre accès aux semences. Deux jours après la publication de l'arrêt, nous avons pu joindre au téléphone Blanche Magarinos-Rey, l'avocate de Cocopelli, qui se trouvait en Belgique. Tout d'abord, elle nous précise le cadre du procès entre Beaumont et Cocopelli.
On est en effet devant la cour d'appel de Nancy parce qu'on a fait appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nancy qui condamnait Cocopelli à payer 10 000 euros de dommages d'intérêt à Beaumont.
Et donc, devant Beaumont, c'est une entreprise semencière. Hein.
Oui, c'est une entreprise semencière qui s'appelle en fait la société Graines Beaumont, qui est installée tout près de Nancy et qui donc vend des semences parmi le reste de ses activités, des semences qui sont inscrites au catalogue. Donc, Beaumont estime qu'il est dans une situation de concurrence avec Cocopelli, qui vend également des semences, et il attaque Cocopelli sur le fondement de la concurrence déloyale, en reprochant à Cocopelli donc, de vendre des semences qui ne sont pas inscrites au catalogue officiel. Donc il a présenté cette demande en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Nancy, et il a eu gain de cause, puisque le tribunal condamne Cocopelli à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts. Et Cocopelli, à la suite de ça, a fait appel et on s'est retrouvé donc devant la cour d'appel de Nancy. Et là, bon, devant la cour d'appel, la société Beaumont réclame à Cocopelli 100 000 euros de dommages d'intérêt et encore une fois, la cessation de toutes ses activités. Donc, devant la cour d'appel de Nancy, bon, moi, je récupère le dossier à ce moment-là, hein, puisque c'est vrai qu'avant, il était suivi par d'autres avocats. Et je propose à Cocopelli, donc, de faire de cette procédure dans l'occasion de critiquer finalement le fond du problème, c'est-à-dire la législation européenne sur le commerce des semences. Et donc on présente à la Cour d'appel une demande donc tendant à suspendre le cours de la procédure et à poser une question, on appelle ça une question préjudicielle, c'est-à-dire une question d'appréciation de la validité de la législation européenne sur le commerce des semences au regard de certains principes fondamentaux de l'Union européenne. Les principes qui sont inscrits dans les traités. Donc c'est ce qu'on a fait et la Cour d'appel de Nancy a accepté. Hein, ça c'était pendant le cours de l'année 2011. En fait, c'était le début de l'année 2011. En février 2011, la Cour d'appel suspend la procédure et saisit la Cour de justice de l'Union européenne, non pas du litige particulier qui oppose Cocopelli à Beaumont, mais de cette question plus fondamentale de la validité des directives européennes sur le commerce des semences au regard de ces principes fondamentaux de l'Union européenne. Alors, il y en avait quatre, hein, essentiellement. Le principe de proportionnalité, le principe de liberté des activités économiques, le principe de non-discrimination ou d'égalité de traitement et le principe de libre circulation des marchandises. Voilà comment ça s'est passé.
D'accord. Peut-être c'est quand même intéressant de rester un tout petit peu là-dessus parce que tu as beaucoup bossé sur ces l'argumentaire. Et en fait, par exemple, pour les auditeurs, je pense que ce n'est pas évident de comprendre cette histoire de proportionnalité. C'est peut-être bien d'expliquer un tout petit peu plus. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, il y a différentes façons de mettre des marchandises sur le marché, en gros, et qu'il y a des procédures plus ou moins contraignantes. Et toi, tu as mis en question qu'on utilise ce qui est finalement une procédure très très contraignante, c'est-à-dire il faut inscrire chaque variété de semences dans un catalogue, il faut que ce soit autorisé, etc., avant de pouvoir le vendre. Or, il y a plein de choses qu'on vend où c'est pas le cas.
Voilà, tout à fait. C'est ça. C'est ça le principe de proportionnalité. Il dit qu'en fait, le législateur, bon, il poursuit certains objectifs et pour atteindre ces objectifs, il ne peut pas imposer aux opérateurs économiques des contraintes trop importantes. Il doit exercer les contraintes justes, nécessaires pour atteindre ces objectifs, mais pas plus. Donc sur la base de ce principe-là, nous avons critiqué la procédure d'autorisation préalable de mise sur le marché. On appelle ça une AMM, hein, une autorisation préalable de mise sur le marché, qui est une procédure donc très lourde, hein, puisque les produits ne peuvent pas être mis sur le marché directement et puis ensuite éventuellement contrôlés dans leur conformité par des services de répression des fraudes, mais ils doivent, avant toute mise sur le marché, passer par une procédure longue, coûteuse et lourde, d'autorisation préalable. Et on a ce système-là, par exemple, pour les pesticides, pour les OGM ou bien pour les médicaments. Et ces procédures donc d'autorisation préalable de mise sur le marché très lourdes, elles se justifient, hein, pour ces produits-là en particulier, parce qu'ils sont porteurs d'un risque particulier pour la santé ou pour l'environnement. Hein, et c'est toujours comme ça qu'on a justifié la mise en place de ces procédures très lourdes. Alors que bon, le problème avec les semences, hein, c'est que on est dans une procédure de ce type-là, sauf que la législation qui a été mise en place pendant les années 60 n'a jamais fait aucune référence à un quelconque risque sanitaire ou environnemental en ce qui concerne les semences. Elle ne fait cette référence ni implicitement ni explicitement. Hein, c'est-à-dire que cette procédure a été mise en place de façon complètement gratuite, du point de vue des risques, hein, je veux dire, afin de contrôler la nature, les caractéristiques des semences qui seraient mises sur le marché. Pourquoi ? Parce que dans les années 60, en fait, ce que le législateur a cherché à faire, c'était vraiment réorienter l'agriculture européenne vers un modèle beaucoup plus industriel, mécanisé et standardisé, qui ressemblerait finalement un peu au modèle agricole américain. Et pour atteindre cet objectif, eh bien, il fallait contrôler le premier stade de la production agricole, c'est-à-dire les semences. Et par le biais de cette procédure, eh bien, on a permis à l'administration finalement d'éliminer progressivement toutes les semences de variétés anciennes qui étaient utilisées traditionnellement par les paysans pour les remplacer par des semences supposément plus productives, plus rentables, des semences hybrides, non reproductibles.
Et en même temps, on impose aux paysans ou aux jardiniers de devoir acheter des semences. Ils ne peuvent plus faire leurs propres semences ou acheter par exemple des semences comme on a parlé avant de Cocopelli, ils sont obligés de passer par des semences officiellement inscrites à catalogue, donc produites par des grandes entreprises.
Voilà, tout à fait. Alors c'est vrai que bon, tout ça est devenu assez vicieux parce que bon, d'une part, par des moyens de sélection agronomique, on a fait en sorte que ces semences nouvelles qui étaient mises sur le marché, qui étaient autorisées à la vente et inscrites dans ce catalogue, soient des semences qui ne soient pas reproductibles, non pas parce qu'elles faisaient l'objet d'une réglementation particulière à ce sujet-là, mais surtout parce que grâce à ces moyens de sélection agronomique, ces semences sur le plan biologique ne sont pas reproductibles. Donc, elles peuvent l'être, mais elles sont dégénérescentes en deuxième génération et donc pas intéressantes pour les paysans. Ce qui fait qu'en effet, dans les faits, les paysans sont obligés, en tout cas pour un très grand nombre d'espèces, de racheter les semences chaque année. Et puis, bon, ce qui s'est passé aussi, c'est que les critères d'inscription au catalogue, catalogue officiel, se sont rapprochés de plus en plus des critères d'octroi d'un droit de propriété intellectuelle, qu'on appelle, en ce qui concerne les semences, un certificat d'obtention végétale. Donc ces critères se sont rapprochés si bien qu'aujourd'hui la confusion est totale et que donc les critères d'inscription au catalogue sont les mêmes critères que ceux qui permettent d'obtenir un droit de propriété intellectuelle sur les semences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le catalogue est le précaré des semences appropriées, des semences protégées par des droits de propriété intellectuelle. Et toutes les semences, toutes les variétés qui appartenaient au domaine public, qui donc ne sont pas appropriées, qui ne sont pas protégées par des droits de propriété intellectuelle, sont devenues interdites. Mmh. Donc on est dans un contexte très particulier, qui n'existe pas dans d'autres domaines de l'économie, dans lequel seuls les produits, les biens appropriés, sont autorisés à la vente. Le reste, le domaine public, le bien commun, a été interdit.
Oui. Et il faut peut-être quand même préciser que quand tu parlais des risques éventuels, ce qui est clairement exclu, enfin, dans l'argumentaire, en quelque sorte, de Cocopelli, par exemple, il y a des semences que maintenant OGM. Mais ça, c'est clairement tout à fait une autre catégorie pour laquelle, bon, d'autres procédures, c'est normal qu'il y ait vraiment des analyses de risques et même il y a des gros problèmes avec ce genre de semences. Mais là où oui, Cocopelli, c'est vraiment des centaines de milliers, en fait, une quantité incroyable de variétés anciennes, de légumes, de céréales, de fleurs, etc. Qui ont toujours existé depuis des siècles, en fait.
Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que c'est assez choquant de voir dans l'arrêt de la Cour, là, écrit par deux fois, le fait que la législation permettrait d'éviter la mise en terre de semences potentiellement nuisibles. Hein, c'est ce que dit la Cour de Luxembourg, de semences potentiellement nuisibles. Et quand la Cour écrit ça, elle se réfère aux semences de variétés anciennes.
Oui.
Alors que ce sont des semences qu'on hérite donc de générations et générations passées de paysans et qui ont nourri les populations européennes pendant des siècles. Et quand on les compare en plus avec les semences qu'on trouve aujourd'hui au catalogue, qui pour la plupart sont enrobées de pesticides dont on a démontré encore tout récemment qui tuaient les abeilles, par exemple, ou alors de semences qui, si elles ne sont pas enrobées, ne donnent rien si elles ne sont pas accompagnées d'un kit de chimie, on se demande quelles sont les semences les plus potentiellement nuisibles, franchement.
Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Bonjour, t'es sûr? Je crois que t'es arrivé dans le studio au moment où on parlait un peu de Cocopelli. Ouais. Tu les connais un petit peu, non?
Bah ouais, Cocopelli, oui, c'est assez connu dans les réseaux des gens qui s'intéressent aux plantes, oui. Parce que justement, une gamme super étendue, effectivement, de variétés anciennes, des plantes qu'on a du mal à trouver aujourd'hui, ouais.
Alors on trouvera l'intégralité donc de ce petit reportage fait par nos collègues de Zinzine sur le site de Cocopelli, donc n'hésitez pas à aller voir. Ou je pense aussi sur le site de Zinzine. Cocopelli, c'est très simple, hein, K-O-K-O-P-E-2-L-I. Hein, de Google, comme d'habitude, fera son travail, sale gueule. Anne-Sophie, par contre, elle est une promeneuse dans la biodiversité. Et elle se promène de semence en semence, de plante en plante.
De plante en plante,
oui. Voilà. Alors dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais? Bon, la plante vient de la semence.
Moi, je cueille des plantes aromatiques et médicinales sur Vassieux et sur le Vercors, en général. Et Donc ça va des bourgeons de pin aux graines. Dernièrement, je cueillais le grémil, l'herbe à la gravelle, qui est encore très utilisée ici par les anciens. Une plante, notamment, que je n'ai pas le droit de vendre, donc je la cueille pour moi, mais je n'ai pas le droit de la vendre parce que c'est un peu comme le problème des semences, c'est une plante qui n'est pas, qui ne fait pas partie de la liste des plantes qu'on appelle les plantes libérées. C'est environ, environ 200 plantes qui sont autorisées à la vente libre en Europe. Mais donc cette plante-là n'en fait pas partie, alors qu'on sait que depuis des siècles, les gens l'utilisent pour se soigner sans qu'il y ait aucune conséquence nuisible pour leur santé. Mais elle n'est pas répertoriée dans les plantes qui ne sont pas nuisibles. Donc,
voilà. Alors dis-nous ta journée, donc. Tu pars avec ton petit sac?
Ça dépend, soit mon petit panier quand c'est des petites fleurs comme la pensée sauvage, soit effectivement mon gros sac sur le dos et des sachets ou des gros paniers, donc des sachets en papier ou des gros paniers pour aller cueillir des plantes qui sont plus volumineuses ou qui sont plus loin, comme je sais pas, par exemple de la busserolle que je vais cueillir sur les hauteurs. Donc la busserolle, c'est une petite plante rampante qui ressemble un peu à du buis et qui pousse plutôt dans les prairies d'altitude. Donc voilà, ça dépend. Ça peut soit durer 2 heures et c'est dans le champ d'à côté, soit être à 3 heures à pied de marche, et ça dure 1 heure de cueillette, mais 3 heures de marche. Mais ce qui est super, c'est qu'on est tout le temps dans la nature.
Je t'ai vu quand même traverser rapidement les champs de monoculture qu'on peut quand même maintenant trouver sur Vassieux, c'est-à-dire que j'imagine que sur la plaine, eh bien, on utilise quand même ces semences dites industrielles. Pas tout le monde, bien sûr, mais quand même, il y a quand même une uniformité dans le paysage sur certains secteurs. Donc, faut-il incriminer les agriculteurs ou pas?
Je ne pense pas qu'on puisse incriminer vraiment les agriculteurs, mais c'est sûr que... parce qu'ils sont pris dans un système, peut-être qui les dépasse aussi. Mais oui, c'est vrai qu'il y a, de la monoculture. Moi, je le vois, j'ai l'impression de voir des champs qui sont un peu à bout, quoi, qui sont un peu épuisés par des cultures trop intensives, peut-être. Et puis l'utilisation, éventuellement, de pesticides, de produits qui ne sont pas... Alors, ce n'est pas partout, ce n'est pas dans tous les champs, mais c'est sûr que ça existe aussi, quoi.
Là, on a parlé aussi des graines enrobées. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait sur Cocopelli, enfin, voilà, les graines enrobées, le danger. J'ai entendu nos amis d'Ardèche, qui ne sont pas très loin d'avoir trouvé des sangliers qui étaient morts donc, à cause de ces graines enrobées. Donc, j'imagine bien, sans vouloir faire du catastrophisme, qu'elles sont enrobées, donc c'est pour notre Loire qui vient chez nous, enfin, pour tous les petits rongeurs qui viennent manger, qui n'ont plus peut-être assez de prédateurs pour s'occuper d'eux, enfin voilà, vrai que c'est aussi un cycle qui se répercute, donc c'est vrai que lorsqu'il y a des invasions de bulots et de campagnols, surtout le campagnol terrestre, Annette, tu le connais bien, le campagnol terrestre?
Le campagnol terrestre, c'est celui qui vient manger mes graines de courge et de... Et toutes nos plantes.
Eh ben alors, tu devrais les enrober avec du poison.
Ah ben non.
Eh ben si, comme ça tu feras de la soupe au poison à l'automne.
Peut-être qu'on peut partager un peu, justement.
On peut partager un peu.
Voilà.
J'ai vu qu'il y avait aussi une vipère dans ton jardin, donc il fallait la partager. On l'a pas coupée en deux, on l'a mis un peu plus loin pour les enfants. Mais c'est vrai que c'est elle qui s'occupe de tes campagnols terrestres.
C'est la vipère qui s'occupe des campagnols, voilà.
C'est efficace, et oui. Ouais. Et puis il y a les renards aussi qui sont efficaces.
D'accord. Donc c'est vrai que ces graines rouges, attention, hein, je le préviens encore, si elles sont rouges, c'est pour qu'on voie que c'est dangereux. Donc ça va être des plantes qui, dès
rouge,
le départ...
Rose fluo, parfois.
Rose fluo, oui.
Comme
rose...
de la morue. Hein.
Voilà. Donc on est un peu surpris de voir ça dans les champs.
Ouais.
Et c'est vrai que le produit qui
qu'il
y a dessus n'est pas vraiment recommandable.
Non.
Non.
C'est sûr que quand on voit ça, on évite de cueillir dans le champ.
Ouais.
Où il y a ce genre de plants qui sont de semences qui sont utilisées, ouais, c'est certain.
D'accord. Donc en fait sur ces histoires de semences et de propriétés industrielles, on peut les retrouver donc sur les plantes médicinales. Tu disais c'est un peu la même chose.
Oui, mais ça date, c'est une loi qui date de Pétain de 41 qui a interdit l'exercice de l'herboristerie.
Attention,
hein,
nous sommes dans le Vercors. Attention, Pétain, il n'est pas toujours bienvenu.
Ouais, il n'est pas bienvenu, c'est clair. Mais voilà, c'est
encore là celui-là. On va s'en occuper.
Oui, il a toujours sa loi est toujours là en tout cas.
D'accord.
Et donc l'herboristerie est interdite en France,
Il existe encore des herboristeries, mais qui ont été ouvertes avant 1941 et qui sont reprises de génération en génération. Donc celles-là, elles ont le droit d'exister, mais de nouvelles herboristeries ne peuvent pas être créées. Et du coup, les gens qui cueillent des plantes, comme moi, ont le droit de cueillir, ont une liste de plantes qu'ils ont le droit de vendre, mais ils ne peuvent pas indiquer les propriétés de ces plantes, même si elles sont reconnues scientifiquement, que tout le monde les utilise à la limite, que tout le monde les connaît la propriété parce que c'est une plante hyper connue. On n'a pas le droit de noter dessus à quoi, enfin voilà, quelles sont ses propriétés, sauf si on parle des propriétés traditionnelles.
Ah bah voilà.
Voilà.
Ouais. Hein, oui. C'est une façon.
Voilà.
Voilà. C'est une façon
détournée d'indiquer les propriétés.
Voilà, c'est détourné. Et puis selon, ben voilà, après si on tombe sur quelqu'un, si jamais on a un contrôle des fraudes, par exemple, et qu'il trouve que bon, c'est un peu. Voilà, on n'est jamais sûr de ne pas se faire.
Et ils sont là, ils surveillent, voilà, ils contrôlent.
Et c'est que les herboristes qui peuvent indiquer les propriétés.
Alors, les herboristes qui existent encore, donc il n'y en a plus des masses, et les pharmaciens. Enfin, les pharmaciens, ils ont le droit, c'est pareil, eux s'ils vendent des plantes, il faut qu'ils passent par, par l'AFSAPS, donc l'Agence Française de Sécurité Sanitaire, qu'ils aient une autorisation de mise sur le marché pour indiquer les propriétés des plantes. Et enfin, en ce moment, il y a un grand débat là-dessus, parce qu'il y a un diplôme d'herboristerie qui en passe peut-être de se recréer.
Ah, donc rien n'est perdu.
Rien n'est perdu, mais le problème, c'est que ce diplôme, on ne sait pas trop si ça ne va pas être pire, en fait, au final, parce que ça risque de faire en sorte, ça risque d'être à peu près le même type de diplôme que le diplôme de pharmacien, donc ça veut dire qu'il faudra avoir fait 3 ans, 4 ans d'études scientifiques, etc. Ça veut dire que le petit cueilleur comme moi, qui n'est pas un bac plus 3 en sciences, en biologie, ou en, voilà, ben je pourrais toujours pas indiquer les propriétés des plantes.
D'accord, voilà. Donc toi tu peux cueillir, je crois que j'ai un ami là, qui est pharmacien, Vincent Delbecq, pour pas
ouais.
le citer.
Ouais. Que tout le monde connaît dans le Diois.
Non, mais moi c'est parce que je lui tords les poignets régulièrement. Donc c'est un ami quand même. Donc toi tu peux travailler pour lui par exemple.
Voilà, ben, je lui vends des plantes.
Pour la pharmacie, quoi.
Voilà,
pour
sa pharmacie. Lui, donc, il a le droit de faire certains mélanges. Bon, c'est un pharmacien, donc il sait ce qu'il fait, il connaît très bien les plantes. Et il a une démarche très intéressante, d'ailleurs. Puisqu'il essaye de revitaliser, justement, l'usage des plantes dans le Vercors, dans le Diois. Justement, de favoriser les plantes qui sont locales.
D'accord.
Parce qu'on a tendance, maintenant, à utiliser des plantes tropicales, etc., mais ces plantes là-bas, éventuellement, les gens qui les ramassaient traditionnellement ou qui les ramassent encore traditionnellement, on va leur interdire de les ramasser parce qu'il y a des firmes qui posent des brevets sur ces plantes-là.
Voilà, tout s'achète et tout se vend.
Voilà, c'est
ça. Nous sommes donc bien avec donc des voix sur un plateau, il me semble.
Sur 107.5,
d'accord. Radio Diois. Et nous parlons des plantes et nous parlons aussi du combat de Cocopelli. Et cette biodiversité qui est en train de se transformer en euros ou en dollars, comme on veut. Ça va avec Anne-Sophie. Cueilleuse, c'est comme ça qu'on dit ?
Cueilleuse de plantes, ouais.
Cueilleuse de plantes. Cueilleuse de plantes sur le plateau qui descend jusqu'à chez vous, les amis du Diois. Donc, tu disais donc que par rapport au même que cette biodiversité était atteinte dans tous les pays du monde finalement.
Oui.
Et qu'en fait on ne sait pas encore tout le pouvoir de toutes les plantes finalement. C'est des traditions, c'est des choses comme ça.
Ah ouais, mais ça existe dans toutes les cultures, tous les environnements ont leurs plantes. Et dans toutes les cultures on utilise des plantes pour se soigner, je veux dire, c'est universel et c'est clair qu'on ne connaît pas encore tout. Après, il ne faut pas non plus décrier complètement la science qui étudie aussi, qui trouve d'autres propriétés qui n'ont pas été trouvées traditionnellement aussi.
Bien sûr.
Et qui isole aussi les...
Ouais, ça c'est... Qui isole les molécules et après qui les recrée chimiquement, ça c'est après... C'est,
alors là,
c'est
là il dépose un brevet, ça, tu veux dire, des fois.
Là, il dépose des brevets, ouais.
D'accord.
Et là, du coup, les cueilleurs traditionnels ne peuvent plus cueillir puisque les firmes ont déposé des brevets. Ils ne peuvent plus utiliser les plantes pour soigner... comme ils le font traditionnellement. Voilà.
C'est-à-dire que la propriété de la plante est utilisée finalement chimiquement.
C'est ouais, c'est ça. Et puis la plante, du coup, appartient à ces firmes qui ont posé des brevets.
D'accord.
Donc ça pose des problèmes. Donc c'est bien de se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'utiliser des plantes qui viennent de très loin, que autour de nous il y a des milliers de plantes qui ont des usages médicinaux par centaines, enfin je veux dire qu'ils sont utiles.
Il paraît que ces plantes ça s'agit pas tout de suite.
Ben c'est sûr qu'il faut être patient. Cures, il faut être un peu patient, ouais, mais en même temps c'est beaucoup plus sain, parce que vous allez prendre par exemple, les anti-inflammatoires,
alors
souvent
le
attaquent
pas
l'estomac.
La marque, hein, pas la
non, non, il n'y a pas de marque. Anti-inflammatoire, ça attaque l'estomac. Voilà. Et donc après, il va falloir prendre des médicaments pour protéger l'estomac, etc.
Oui,
et puis, alors qu'il y a des plantes, je ne dirais pas le nom parce que je n'ai pas le droit, mais que beaucoup de gens connaissent.
Tu peux me l'écrire, moi j'ai le droit de le dire parce que je ne suis pas ramasseur de plantes.
T'es pas cueilleur.
Je veux dire, par exemple, si on prend la reine des prés, et
voilà,
qu'on remplace qu'il y a des vertus comme l'aspirine, voilà. Je peux en parler.
C'est possible, c'est voilà.
Ah, c'est possible, c'est ma grand-mère qui me le disait.
Elle protège l'estomac.
Voilà, elle protège l'estomac, ok.
Éventuellement.
Ben, la diversité, la biodiversité. Ouais.
Donc finalement, il faudrait dire, utiliser un maximum les plantes locales. Plus les gens utilisent, plus ça peut donner envie et faire comprendre et moins développer justement les produits chimiques,
oui,
etc.
Oui, qui sont souvent plus forts, effectivement. Alors ça, c'est un autre problème, c'est qu'on est tellement habitué à prendre des médicaments qui sont forts, c'est quasiment des remèdes de cheval.
De cheval.
C'est sûr qu'en deux jours,
mais
on
est-ce
va
que
mieux,
c'est mais... pas Angélique, enfin j'allais dire... est-ce qu'il y aurait assez de plantes pour tout le monde? Est-ce que la cueillette, est-ce qu'il faudrait se mettre à cultiver les orties, la reine des prés, remettre un système encore en marche qui serait peut-être aussi destructeur? Ou alors
en fait,
il y aurait assez pour tout le monde?
Je pense que oui, il y a des plantes qui seraient certainement pas suffisantes, mais je pense qu'il y a une complémentarité entre les deux déjà, entre l'allopathie, enfin la médecine par les médicaments et l'usage des plantes. Mais il y a aussi d'autres façons de se soigner. Qui se développe aussi, l'ostéopathie, etc. etc.
Et ouais, il paraît que les plantes aussi dans la nourriture. Okay. Hein. Moi, je suis pour ça. Annette, elle fait des très bonnes galettes avec des clés d'un pot de Bon Henri. Hein. Mais je pense qu'avec les épices qu'elle met dedans, ça nous soigne aussi indirectement.
Oui, oui.
Hein,
oui.
Petite dose homéopathique.
En fait, il y a un ethnobotaniste, Pierre Le Taguy, qui écrit dans ses bouquins, qui, en enquêtant, s'est rendu compte que c'est dans les Alpes de Haute-Provence, les anciens, beaucoup, se font des soupes et des repas à chaque saison qui correspondent aux besoins du moment.
D'accord.
Pour faire une cure dépurative au début du printemps, pour évacuer les toxines de l'hiver, etc. Ce qui fait que c'est préventif, effectivement, ça évite les maladies.
Moi qui ai suivi l'ours de près...
C'est ce que j'allais te dire.
Qu'est-ce que tu as vu, Annette, avec l'ours?
Non, mais j'allais dire, c'est surtout ce que tu dis depuis de nombreuses années, où tu aimerais finalement suivre le régime de l'ours, adapté en fonction des saisons.
Non, c'est parce que je ressemble à un ours, c'est ça que je veux dire.
Des périodes où il mange des racines, des périodes...
Ouais, mais alors à la fin du printemps, il fait le pet de l'ours. Il n'a pas, c'est très connu, c'est un remède ancestral. Ben, on va écouter un petit peu quelque chose de sympathique au niveau de la biodiversité. C'est assez sympa. Parce que c'est vrai que c'est pas très très gai tout ça là, cette histoire là finalement. On s'aperçoit que on est acheté partout. Hein.
C'est l'introduction.
Ne vous inquiétez pas, ça va durer un petit bout de temps. Hein. Bon, on le coupera quand même avant.
Oh.
D'abord il y a Hector le castor, et Édouard le canard, et José le sanglier, et Charlotte la marmotte, et Mireille l'abeille, et Léon le frelon, et Fédor le porc, et Tonio le blaireau. Ils se réunissent et décident d'aller chercher des amis pour se rendre à leur rendez-vous. Ils rencontrent Yvan le hareng, et Edgar le fougas, et Fidèle la sauterelle, et Firmin le lémurien, et Ginette la mouette, et Manon l'espadon, et Yvon le saumon, et Mario le bulot. Et en chemin, ils rencontrent aussi plein d'autres amis, Lulu le zébu, et Idir le
tapir, et Dédé la galinette cendrée, et Salomon le cochon, et Jean-Marc la carpe, et Théo le cabillaud, et Pascal le chacal, et Sophie le canari. Et avec tous ses amis, il rencontre un autre groupe d'animaux qui se rendent au même endroit. Mais quel hasard! Il y a Jean-Pascal l'orignal, et Loïc le lombric, et Nicolas le koala, et Coré l'araignée, et Annie le ouistiti, et Hector l'alligator, et Hubert le cocker, et Raoul le pitbull. Mais il y a aussi Armand l'éléphant, et Bernard le balbuzard, et Géraldine le cygne, et Damien le requin, et Arnaud le charmant, et Cécile le mandril, et Éric le porc-épic, et Éric le nazique. Enfin zit, et c'est quoi ce bouffon là, il a le même prénom que moi là? Mais on s'en fout, c'est une chanson. Ah non, bah je suis pas d'accord, hein, c'est qu'il y a un embrouille là, Grenasse et toi, c'est quoi là, que j'ai le même prénom? Comment ça, Grenasse, tu...
Bon alors, s'il y en a qui veulent continuer la chanson, ils peuvent, il n'y a pas de problème. Ils nous appellent, donc c'est toujours des voix sur un plateau.
Sur 107.5.
Voilà, vous pouvez continuer la chanson, vous voulez que je vous la remette un petit peu ou pas? C'est pas la peine, c'est comme vous voulez, hein. Allez, je vous la mets un petit peu.
Et Sylvie le Coati, Virginie le Diable d'Asmanie, et Herbert le Dromadaire, et Aurélie l'Ocapi, et Bertrand le Footbassant, et Laurette la Vachette. Ils ont aussi avec eux des animaux moins sympathiques, qui ne mériteraient pas d'exister si le monde était parfait. Il y a Edith le Trilobite, et Noémie la Bactérie, et Hervé le Bousier, et Agathe la Blatte, et Fernande le Scolopendre, et Chantal la Migale, et Annabelle le Bretel, et Le Pen la Hyène. Mais peu importe, ils convainquent tous ces animaux de se rendre à leur rendez-vous commun, et ils reprennent la route, et ils croisent à nouveau Pierrot le Manchot, et Nono le...
Bien, donc vous êtes toujours sur des voies sur un plateau, et sur le plateau du Vercors, quelle biodiversité! C'est vrai que c'est des lieux qu'il faut protéger parce que oui. Ils sont là, donc, bah, pas par hasard, et un sol aussi différent.
Ouais.
Et...
il y a une belle biodiversité, et le biotope est fragile, parce que c'est calcaire, parce que c'est très sec, enfin, c'est, ouais, comme c'est calcaire et karstique, y a, par endroits, il y a vraiment très peu de terre sur le Vercors. Donc, et dans le Diwa, c'est pareil. Quoi. C'est des milieux qui sont riches en variété, mais si on les maltraite, ça peut vite devenir, à mon avis, hein, ça peut vite devenir une garrigue. Ou,
bah avec le réchauffement climatique, Annette, nous avons vu dans l'émission précédente. Donc les émissions s'enchaînent et se suivent. Un réchauffement climatique, une petite garrigue, c'est vrai que peut-être des fois le surpâturage aussi, ça peut arriver.
Oui.
Ou le passage aussi d'engins un peu fort, quoi. C'est vrai qu'il faut y aller doucement sur le plateau du Vercors. Tu disais, il n'y a pas beaucoup de sol, pas beaucoup d'humus, c'est ça?
Ouais, il n'y a pas beaucoup d'humus, ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est beaucoup de la roche partout. Alors, il y a quelques endroits où il y a des bonnes profondeurs de terre, mais c'est assez rare quand même. Donc, c'est pour ça que les plantes sont assez fragiles, en fait. Même dans les endroits où elles sont abondantes, moi, je fais toujours attention d'en laisser un maximum, quoi. C'est pour ça que j'aurais jamais le projet ici de faire une cueillette, de développer la cueillette à un niveau, je sais pas, industriel. Il faut rester au niveau local.
Il faut savoir observer, voilà. Protéger, déguster.
Oui.
Alors, sans nous dire les valeurs médicinales de telle plante, qu'est-ce qui est, j'allais dire, caractéristique un peu du Vercors? Et qui est de bonne qualité, je veux dire.
Bah, la pensée sauvage.
Ouais.
Elle pousse beaucoup dans les champs qui sont acides et qui sont acidifiés par le silex.
D'accord.
Voilà. Donc, beaucoup de paysans l'aiment pas parce qu'elle envahit leurs champs de trèfle. Donc, ils mettent de la chaux pour faire que la terre
devienne. Ah, j'ai vu des paysans quand même qui faisaient attention puisque on a rencontré Hérald.
Mais c'est pas pareil, il est en bio.
Ah, dis-moi alors. Hérald, il est en bio, d'accord.
Non, il connaît bien la biodiversité aussi.
D'accord.
Les propriétés.
Et son pain est fameux. Donc, boulanger paysan, c'est ça?
Oui, ouais, bah ouais.
Boulanger paysan, et donc il y a quand même. Ils ont réussi donc, avec Cécile, même à convaincre d'autres à travailler avec eux, puisque j'ai vu beaucoup de tracteurs, c'était pas tous ceux d'Hérald.
Ah ouais.
Donc c'est vrai que, à mon avis, je sais pas, j'ai vu ça de loin dans le Vercors, on sait pas. On voit toujours de loin dans le Vercors. Comme c'est plat, on se met un peu sur la montagne et on voit les choses. Alors peut-être qu'on se trompe des fois, mais j'ai l'impression quand même que le pain de Cécile, et d'Hérald est bien prisée, justement.
Ouais.
Donc cette biodiversité, on va la retrouver jusque dans notre assiette. Ouais. Même si c'est du pain, finalement, je ne pense pas que les graines de notre ami Hérald soient peintes en rouge.
Non.
Avec la strychnine, mais...
C'est sûr.
Voilà. Ouais, il faut faire attention, ouais, c'est sûr. Donc le business, toujours le business, c'est vrai que ce n'est pas évident. On est là donc sur des voies sur un plateau. Je rappelle que ceux qui veulent goûter du bon pain de Cécile et Hérald, il est sur le marché, c'est ça, Annette, non?
Sur le marché le jeudi matin, ouais. Oui, bien sûr. Et puis après, on peut le commander. Il y a 2 fournées par semaine, le mercredi et le vendredi.
D'accord. 2 fournées par semaine, on peut le commander. Et sinon, elle est... comment ça se passe? Il y a une boulangerie, non? Comment ça marche?
On peut acheter au Fournil.
Oui, au Fournil. Ah, le mercredi et le vendredi. Mmh. Après, il y a des regroupements en AMAP. Hein. Sur le plateau où, justement, par l'intermédiaire de commandes, elle arrive à vendre à des restaurants. Elle vend sur tout le plateau du Vercors par commande, en fait, sans aller forcément à la boulangerie ou au Fournil. Les mercredis, le vendredi. Donc c'est juste de 5h30 à 6h30 aussi, hein, faut savoir quand même. Et le jeudi matin au marché.
D'accord. Eh bien, on va commencer à faire me tranquillement dans nos champs. Moi, si vous avez des petites techniques pour attraper mon Loir, je suis preneur. Parce que c'est vrai que.
Les caches,
il nous fait Donc on va revenir sur des choses qui sont un peu précises. Mon Loir, je l'attrape avec. Avec un meumeu. Dis-moi tout, Anne-Sophie, toi qui as pu attraper ton Loir.
Oui, une petite cage et après on va le remettre tranquillement dans une belle forêt de hêtres, avec éventuellement des mûriers, des framboisiers pour qu'il puisse manger le petit Loir.
D'accord.
Dans des endroits où il y a des petits creux où il puisse faire son nid.
Oui, en fait, tous ces animaux, en fait, tu sais, Annette, ils font leurs réserves et ils en oublient. Et c'est en oubliant ces réserves qui commence à répartir un petit peu ses
petites graines. Vu, oui, qu'il faisait des réserves, parce qu'il me manquait 1 kg de graines de soja qui avait disparu.
Ça devait être du transgénique, c'est pour ça.
Et je les retrouve dispatchées dans la maison, c'est pas mal.
D'accord.
Quand même,
ouais. Ah, c'est assez impressionnant.
Ok. Alors, toute cette biodiversité, je rappelle toi, Annette, je me rappelle, c'était la première émission, on avait mis notre ami Bourville, avec les abeilles.
Exact.
Et on avait pensé à Elodie qui nous avait donné un petit coup aussi de un petit coup de main pour cette émission bien sympathique qu'on fait entre nous, entre gens du plateau. Et elle disait aussi que c'était vraiment inquiétant par rapport à ces abeilles.
Ouais.
Parce
que
entre le changement peut-être de climat, et bien les abeilles, elles en prennent plein la figure.
Changement de climat, puis entre autres, quoi.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, 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 bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petit nid pour bien dormir. Zzz, 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 les abeilles. Mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon, et dans l'azur elle monte, poursuivie par tous les bourdons. Zzz, 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 zzz. ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera, qui sera le bourdon papa. Mais tout de suite après, il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille, ah, si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien là, quand je suis avec ma fiancée, je me touche pas mal des abeilles. Des abeilles. Je me demande un peu. Enfin. Hey, à la ruche. À la ruche.
Merci notre ami Bourville pour cette superbe chanson. Toujours une histoire de graines dans la nature. Et puis j'ai vu Annette.
Oui.
Quand il commence à faire froid, je te vois avec tes petits gants t'en aller
les cynorhodons.
Les cynorhodons. Ah, oui. Que fais-tu avec les cynorhodons?
Alors d'abord, il faut attendre que ça gèle quand même. Ah. C'est mieux. Voilà. Et ben moi, je les ramasse, je les cueille, et après, en fait, j'en fais de la confiture. Donc la confiture, c'est pas toujours facile la confiture de cynorhodons. Je crois qu'il y a plein de techniques différentes. Parce que, en fait, il ne faut pas garder les petites graines et qui sont dedans. Alors, il y en a qui les épluchent, qui enlèvent les graines, mais il y en a beaucoup et c'est très, très long.
C'est clair. Il ne reste plus grand-chose. Et après,
voilà, il ne reste plus grand-chose.
Mais c'est très bon.
Mais c'est super bon. Ouais. Moi, je les laisse tremper une nuit. Après, je les cuis et je les passe dans un moulin à légumes plusieurs fois. Et ben c'est pas mal, parce qu'il y a toute la petite purée des cynorhodons qui sort. Et c'est ça, après, qu'on fait cuire avec du sucre pour faire la confiture.
Une confiture très riche en vitamine C.
Ah ouais, non, mais attends, tu vas pas dire pourquoi c'est bon la vitamine C, tu n'as pas le droit.
Ne
l'oublie pas, tu n'as pas le droit, ne dis pas. Ne le dis surtout pas. Alors, il faut savoir que les renards en sont friands, hein. Les muscardins, bien sûr.
Les lamas aussi.
Les lamas, bon, ça c'est les lamas, on sait d'où ça vient. Il n'y en a pas trop sur le plateau du Vercors, on sait d'où ça vient, attention. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les chocards, les oiseaux. Hein, donc ils viennent quand il commence à faire très froid, donc surtout pas tout ramasser parce que sinon
leur
ils n'ont plus rien.
Bah ouais.
Et
bien sûr.
Ces fruits sont rouges. Et tu sais pourquoi ils sont rouges?
Non.
Non, bah, c'est pour attirer justement les oiseaux. Mmh. Parce que c'est eux qui vont répartir un petit peu la graine dans leurs petites fientes qu'ils vont mettre à droite et gauche. Et Dieu sait qu'un chocard, il peut se balader. Hein? Et c'est ainsi que certaines graines ne peuvent d'ailleurs germer que quand elles sont passées à l'intérieur d'un estomac. Donc si l'acide de l'estomac a attaqué un petit peu la graine, et ben ça peut, elles peuvent germer.
Ouais, ouais.
Donc vous voyez que c'est assez important.
Bien
donc
fait,
c'est pas mal fait, hein? C'est la biodiversité. Mmh. Et tout ça, la biodiversité, vous savez que nous on est une émission un petit peu sympathique, même sur le plateau du Vercors, et on aime bien vous passer un petit peu des choses. C'est pour ça que avec nos amis La Chanson du Dimanche, on vous prévoit, avec la biodiversité, de faire de l'argent. Ça, c'est sûr. Un maximum d'argent. Il faut. Hein. C'est très important de se faire un maximum.
J'achèterai plein d'objets sans fil. Ah, j'achèterai un écran plein.
Alors, nos amis...
La vie serait plus facile.
Pouvoir l'achat.
Je t'achèterai un stylo. Je t'achèterai un cahier. Peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché. Le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait acheté. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh, si j'avais le pouvoir d'achat. Ah, j'achèterai des boîtes en plastique. Ah, j'achèterai le temps de Quechua. Ah, aujourd'hui on ne sait jamais. Ah, je te ferai le télé. J'emmènerai jusqu'à.
qu'à Beauvais, peut-être même que je pourrais payer l'hospice de mémé. Donnez-moi le pouvoir d'achat, donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait et l'acheter. Donnez-moi le pouvoir d'achat, donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh, tire le pouvoir d'achat. Je devrais payer plus d'impôts, mais en fait je paierai moins d'impôts. Parce que les impôts, c'est bien fait. Je voudrais que mon père président, celui qui sent des pieds, lui, le président, il sent des pieds. Je me mettrai à la piscine, puis j'irai chez le podologue, me faire enlever une virgule. Je ferai des heures de féline, je m'achèterai un barbecue. Avec un allume-barbecue, je m'achèterai un rat-de-bélet pour protéger mon barbecue.
Je placerai 1000 euros à l'excellent taux de 4%, ce qui me fera au bout de 10 ans la coquette somme de 400 euros. 400 euros, c'est très important. Je pourrais m'acheter une brosse à dents, du jus d'ananas, un téléphone pour pouvoir raquer. Oh, je m'en peux plus, je m'en peux plus, un peu plus.
Allez, salut, à dimanche prochain. Oh la 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 la
la la la la la la la la la. Tu connaissais, non, nos amis de la chanson du dimanche?
Non, je connaissais pas.
Ah, c'est fantastique, pas mal, ils sont fantastiques. Alors, si tu veux, je t'en mettrai plus souvent sur notre belle chanson. Hein. Ben, l'émission, Annette, ça te plaît?
On peut. Ah ouais.
Ouais, donc le son sera meilleur, parce que là, on a un problème de table de mixage, et donc, comme vous avez pu vous en apercevoir, on a tout fait à main levée avec un seul micro, mais comme on n'est pas payé, on n'a pas de pouvoir d'achat, et donc ça va être dur, je vous dis, ça va être dur. Heureusement que la biodiversité, on est en train de la maîtriser, on va pouvoir se faire du blé rouge, vert fluo, enfin moi c'est pas moi qui le mangera. Tu te fais du fric là, tu te fais du blé avec ton histoire là?
Du blé, bah, c'est pour manger, on va dire.
Ah, c'est pour manger, voilà. Tu pourras t'acheter un barbecue. Hein.
Ouais. C'est sûr, c'est mon grand rêve.
C'est ton grand rêve. Bah, merci Anne-Sophie, on peut te retrouver donc sur le plateau
merci
du Vertor.
Merci Anne-Sophie.
Oui, on peut te commander des plantes, comment
ouais,
ça marche?
Oui, bien sûr, ben, on peut me commander des plantes en m'appelant, parce que ben, voilà, j'ai pas internet, donc j'ai
et
un
ben,
numéro
tu peux
de téléphone,
donner ton numéro,
par
voilà.
Contre, donc mon numéro c'est 06 30 46.
Alors, attends, parce que j'ai peur que ça se perde un peu tout ça, ouais. on va le refaire un petit peu. D'accord. Mieux. Donc ton numéro, on reprend.
Oui, mon numéro 06 30 46 29 41.
D'accord, 06 voilà. 30. Je reprends parce que moi j'ai du mal. Hein. Mm-hmm. J'écris sur un petit morceau de papier en même temps. Mm-hmm. Redis-le encore ton numéro pour trouver le plan. Je le trouve pas, j'arrive pas à écrire.
06 30 46 29 41.
Mais c'est parfait. C'est parfait.
Et si on commande en début de saison, c'est encore mieux. C'est-à-dire au mois de mars-avril, comme ça j'ai le temps de pouvoir prévoir et de cueillir ce qu'il vous faut. Voilà.
Allez, très bien.
Ah, même sur commande. Et eh bien, bah, merci oui, Anne-Sophie. Alors.
On ne boule pas les sorcières à Vassion Vercors.
J'espère.
Merci, à très bientôt. C'était Des Voix sur un plateau. On se retrouve la semaine prochaine, Annette.
Oui.
Et j'espère qu'on aura une table de mixage qui marchera. On s'excuse près de nos auditeurs. À très bientôt.
Merci à tout le monde.
Salut.
Salut.
Voilà.